Bienvenue sur l'empreinte digitale. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Karina Shekli pour son ouvrage Le marketing d'influence qui vient de paraître aux éditions Viber. Salut Karina.
Salut Fabrice.
Comment tu vas?
Mais très bien, et toi?
Ah, écoute, moi je suis ravi d'être avec toi. Écoute, pour échanger autour d'une thématique qui nous est chère en commun, le marketing d'influence. Voilà.
Complètement.
Allez, on va parler un petit peu de tout ça pendant cette interview. Auparavant, alors peut-être que, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore, je ne sais pas comment ce serait possible, mais peut-être qu'il y en a qui sortent d'une grotte. Alors, qui es-tu, Karina? Dis-nous un petit peu.
Alors, bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Karina Shekli, j'ai 15 ans d'expérience dans le domaine de la communication, du social media et de l'influence. Je pense qu'on m'a connue effectivement à l'époque quand j'étais responsable de la communication de la marque Parnasse. Parnasse, en fait, c'est la marque sélective luxe du groupe Orange, qui n'est pas forcément très connue du grand public aujourd'hui, puisque c'est une marque qui s'adresse principalement aux plus grosses fortunes de France. Et donc, j'ai commencé effectivement à prendre la parole à ce moment-là sur des sujets divers et variés, mais principalement autour de la communication, principalement autour du social media, de l'identité de marque et évidemment de l'influence marketing. Depuis, j'ai quitté effectivement le groupe Orange pour me lancer de façon individuelle. Et aujourd'hui, j'allais dire, j'ai trois casquettes. La première qui est effectivement, je fais du conseil de façon classique auprès d'entreprises. Et j'allais dire, le fait que je vienne des grands groupes, c'est vrai que j'accompagne aujourd'hui principalement des structures quand même assez importantes. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième casquette, finalement, je fais aussi de la conférence, mais aussi, j'allais dire, de la formation, toujours dans ces domaines de prédilection autour du social media, de l'identité de marque et puis de l'influence marketing. Et j'allais dire la troisième casquette, mais tu en as un peu parlé tout à l'heure, évidemment. Donc aujourd'hui, je suis désormais auteur donc du livre « Le marketing d'influence ». Et donc, c'est un livre qui est sorti mais tout récemment, le 4 septembre.
Alors justement, on va parler de cet ouvrage. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre sur le marketing d'influence aujourd'hui?
Alors, plusieurs choses. Déjà, la première des choses aussi à dire, c'est que j'ai un éditeur, en fait, hein, qui n'est autre que voilà, la maison Viber, qui est venu effectivement frapper à ma porte en me disant « Madame, je pense qu'aujourd'hui, il manque un livre effectivement sur le marketing d'influence. Est-ce que vous auriez envie de l'écrire ?» Donc, moi, je fais partie aussi des personnes qui saisissent les opportunités. Donc, évidemment, je me suis dit « c'est impératif ». Tout le monde parle du marketing d'influence aujourd'hui. Le marketing d'influence est exponentiel quand on regarde les chiffres, que ce soit en France ou à l'international. Juste en France, voilà, 6,5 milliards d'euros sur le marché donc en 2024. Donc c'est vraiment un marché qui est dense et qui va continuer de se densifier. Et je trouvais quand même assez dommage de pas avoir effectivement d'ouvrage sur le sujet. Quand je dis d'ouvrages, en tout cas de guides pratiques pour pouvoir effectivement travailler sur ce sujet qui aujourd'hui, j'allais dire, est presque indispensable dans tout service de communication ou toute entreprise qui a besoin effectivement de faire connaître, j'allais dire, son produit ou sa marque. Donc finalement, j'ai écrit ce livre surtout voilà pour donner l'opportunité à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs, des personnes qui gèrent des PME, etc., qui entendent finalement parler du marketing d'influence, qui savent peut-être pas forcément exactement de quoi il s'agit, de pouvoir finalement s'appuyer sur un guide pratique, hein, vraiment un guide pas à pas, pour pouvoir mener leur campagne de marketing d'influence. Parce qu'aujourd'hui, il faut être très honnête, tout le monde n'a pas forcément les moyens de se faire accompagner par les plus grosses agences parisiennes. Et donc, pour moi, c'était quand même nécessaire d'avoir effectivement un référentiel sur ce sujet qui, pour moi, est d'envergure. Et j'allais dire, au-delà effectivement d'écrire un livre, moi, ce que j'avais envie aussi, c'est de pouvoir donner la parole à des experts, parce que moi, j'ai ma vision du marketing d'influence, mais en prenant des experts différents pour avoir un livre qui soit, j'allais dire, relativement riche. Je vais citer quelques personnes très rapidement, mais je pense que on peut, enfin tout le monde connaît évidemment Frédéric Fougera, voilà, d'ailleurs qui sort son dernier livre actuellement, qui signe la préface du livre. Donc je pense que c'était important pour moi d'avoir une personne, voilà, qui a cette reconnaissance, j'allais dire aussi du public dans le domaine de la communication et qui a une certaine expertise, qui puisse nous donner aussi son avis, j'allais dire sur le sujet, et puis avoir vraiment des personnes différentes. Hein. Je prends l'exemple de Vincent Salimon, qui n'est autre que effectivement le CEO de BMW France, qui parle de l'influence des dirigeants, par exemple, parce que effectivement c'est encore une vision qui va être différente. Avoir la vision justement d'un créateur de contenu, parce que c'est aussi ça le sujet. En l'occurrence Charles Gastaud, qui est plus connu d'ailleurs sous le nom de Charles Stelling, pardon, qui est créateur de contenu dans l'univers de la finance. Aujourd'hui, il cumule plus de 1,2 million d'abonnés sur TikTok, par exemple. Il est présent sur d'autres plateformes également. Mais je pense que c'est important aussi de montrer, et c'était mon envie aussi, de montrer de l'intérieur ce que c'est que le métier, effectivement, de créateur de contenu. Et il en parle très bien, effectivement, dans le livre. Et puis, je vais pas citer tout le monde, mais voilà, avoir aussi une expertise d'un avocat spécialisé dans le domaine du numérique, en l'occurrence Raphaël Molina et bien d'autres, je trouve que c'était quand même assez important pour pouvoir donner une vision globale. Et puis toi, évidemment, Fabrice, puisque tu interviens dans le livre, pour nous parler justement des plateformes qui sont les plus, importantes aujourd'hui dans le domaine de l'influence marketing.
Merci pour ta confiance, Karina, d'ailleurs, de m'avoir invité à participer, à faire une petite contribution à ton ouvrage. Alors, tu as justement un panel d'experts hein, qui t'entourent dans ce livre, qui font que le livre est très riche, comme tu le dis. À qui s'adresse ce livre aujourd'hui? Tu l'as écrit pour qui? C'est pour des personnes qui débutent? C'est des gens qui sont déjà experts? C'est ceux qui veulent faire du marketing d'influence en devenant influenceurs? C'est ceux qui veulent l'utiliser? Ce sont des entreprises? C'est pour qui exactement?
Alors, ce livre s'adresse principalement justement aux entrepreneurs. Il s'adresse principalement à des personnes qui gèrent, par exemple, des PME, à des dirigeants également qui se posent la question, voilà, du marketing d'influence, et évidemment à des étudiants qui effectivement souhaiteraient parfaire leurs connaissances sur le marketing d'influence.
Ouais, top. Alors toi, Karina, comment tu le définirais, ce marketing d'influence? On arrive bientôt en 2026, alors peut-être que vous écouterez ce podcast en décalage. On est encore en fin 2025, là on enregistre, on est dans les derniers jours, dernières semaines de 2025, on approche 2026. Quel bilan que tu feras? Enfin, dis-moi, comment tu le définirais aujourd'hui, ce marketing d'influence?
Alors pour moi, c'est un marketing d'influence qui, j'allais dire, en tout cas se structure, se professionnalise et surtout se transforme. Il y a quand même eu beaucoup d'évolutions ces dernières années, hein, 2023 évidemment avec la promulgation de la loi sur les influenceurs. Donc je pense que ça a été vraiment déjà un gros changement effectivement dans le marketing d'influence, où j'allais dire jusqu'à 2023 c'était un peu un no man's land et entre guillemets tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait sur les plateformes. Donc c'était un peu gênant, et donc on commence effectivement à avoir une structuration de ce métier. Aujourd'hui, voilà, on a quand même l'UMIC est présent aussi pour aider, réguler le marché. Il y a quand même des instances, j'allais dire, qui se mettent en place. Donc ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Évidemment qu'on n'est pas arrivé encore à une situation idéale, hein. Il va y avoir sans doute aussi une V2 de cette loi. Donc, mais les choses avancent, pardon, et le sujet effectivement est en train d'évoluer. Il est en train de se transformer parce que évidemment on va pas se dire que l'IA n'est pas présent. Bien au contraire, l'IA est bien présent dans nos vies, et je pense qu'il va y avoir aussi des évolutions évidemment dans le métier. Et puis, j'allais dire, les créateurs tels qu'on les connaissait auparavant, eux-mêmes sont en train de changer. Aujourd'hui, les créateurs incarnent des vraies marques personnelles. On a effectivement aussi des créateurs qui deviennent, j'allais dire, des entrepreneurs. On a des créateurs qui deviennent des acteurs. Donc, ils sont aussi j'allais dire, dans cette quête de pouvoir monter aussi des projets. Et donc, on n'est plus dans le seul stade où, j'allais dire, l'influenceur diffuse des contenus en rapport avec des produits et des services d'autres marques. Aujourd'hui, j'allais dire, ils créent aussi leur propre voix. On prend l'exemple là de Léna Situation là, qui a lancé son dernier livre, Encore Mieux. Elle va au-delà de faire de l'auto-édition. Effectivement, elle aurait pu faire de l'auto-édition. Non, elle crée sa propre maison d'édition, donc Léna Édition, et donc pour bah, justement promouvoir son livre, mais aussi dans une démarche de donner une part de voix à des artistes émergents. Donc on est aussi, je pense, dans cette ère où beaucoup de choses changent, beaucoup de choses évoluent, et les créateurs eux-mêmes évoluent énormément.
Ouais, on a des influenceurs qui sont devenus des médias à part entière. Hein. Tu nous dis Léna Situation. Léna Situation, elle a plus d'abonnés Instagram que Elle, le magazine Elle du groupe, voilà, un groupe que vous connaissez bien, hein, Elle France. Et il y a plus de monde qui suit Léna Situation que Elle. Ça change aussi quand même le rapport de la société avec rapport aux marques. Hein. Alors, si une marque justement veut faire du marketing d'influence, ce serait quoi pour toi les piliers d'une bonne stratégie? Sur quoi il faut s'appuyer quand on est une marque et qu'on veut utiliser ce levier-là?
Alors, peut-être en trois points, mais le premier, et souvent, c'est le point qui est assez négligé, c'est bien connaître, j'allais dire, et maîtriser son environnement. Quand je dis ça, ça peut paraître un peu... qu'est-ce qu'on y met dedans, finalement? Évidemment, bien connaître son produit. En fait, quand on est une marque, j'allais dire qu'on maîtrise son produit et on connaît son produit mieux que personne. Donc, on sait comment, effectivement, on va pouvoir le mettre en avant, le mettre en scène. Mais derrière, on a aussi une cible. Et donc, c'est bien connaître aussi la cible à laquelle on va adresser, finalement, ce produit. Connaître son environnement concurrentiel. Évidemment, l'idée, c'est pas de copier le voisin, mais en tout cas, c'est de savoir ce qu'il fait et savoir ce qu'il fait aussi en termes d'influence, donc avec qui il collabore aujourd'hui, quelles sont les campagnes qui ont été mises en place, bref, avoir une vision assez large finalement de son environnement, l'environnement digital aussi, hein. Tu le sais mieux que moi, ça évolue tellement vite d'un mois à l'autre, on peut complètement être dépositionné. Si on regarde TikTok, il y a des tendances qui sortent d'une semaine sur l'autre. On a loupé la tendance, on peut être déjà, entre guillemets, has-been. Enfin, c'est hyper important de bien connaître, l'environnement global qui nous entoure. Évidemment, il y a le produit, évidemment, il y a la cible, mais c'est de regarder effectivement autour et de se dire comment effectivement mon environnement concurrentiel évolue, comment l'environnement digital évolue, pour ensuite, faire les bons choix derrière en termes de projection sur une campagne effectivement d'influence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment de définir des objectifs clairs parce qu'aujourd'hui, on a parfois des entreprises qui veulent tout faire en même temps. Je veux augmenter la notoriété de ma marque, je veux faire des ventes, je veux effectivement créer de l'engagement. Et à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur... l'objectif principal de la campagne d'influence, ou parfois on a aussi des marques qui savent pas trop pourquoi elles veulent ou elles ont envie de faire effectivement du marketing d'influence. Et évidemment, quand on fait du marketing d'influence, au même titre qu'on ferait une autre campagne digitale, c'est se dire pourquoi on le fait. En fait, c'est ça la question fondamentale. Pourquoi je lance une campagne d'influence? Et une fois qu'on a répondu aussi à cette question, on a des objectifs qui vont être extrêmement clairs et on va pouvoir faire, donc le troisième point, des choix stratégiques qui vont répondre finalement à cet objectif qui va être défini, qui va être partagé aussi en interne. Et donc, quand on définit aussi un objectif en amont, on a aussi, moins de déceptions qui peuvent arriver derrière. Si effectivement notre objectif, c'est de générer de la notoriété, si on atteint effectivement ces chiffres-là, mais peut-être qu'on n'a pas fait de vente, ou moins de ventes que ce qu'on aurait pu imaginer, mais ce n'était pas l'objectif en fait de départ. Et c'est ça en fait qui pour moi est hyper important. Et ensuite, évidemment, toute la dimension stratégique de choisir le bon influenceur, de créer le match parfait avec l'influenceur. J'en parle comme ça dans le livre et je pense que c'est vraiment ça, de choisir un influenceur qui va avoir finalement les mêmes valeurs que nous, qui va aimer votre produit, qui va avoir une audience aussi, qui va être suffisamment proche de votre cible. Ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Et j'allais dire, c'est aussi avoir une idée globale du budget, parce que voilà, tout le monde rêve, évidemment, on en a déjà parlé, c'est la deuxième fois qu'on en parle, mais d'avoir l'ENA situation, évidemment, tout le monde en rêve, tout le monde me parle de Caroline Receveur aussi, donc, entre guillemets, les top influenceurs français tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais en fonction aussi du budget qu'on a, il y a une réalité économique qui fait que bah, peut-être qu'on va pas pouvoir effectivement choisir ce type d'influenceur, mais peut-être des nano-influenceurs, ou peut-être effectivement réfléchir de façon différencier son approche effectivement du marketing d'influence. Et puis après, évidemment, une fois qu'on a posé tout cela, ça va être définir les bonnes plateformes, où est-ce que ma cible est présente, où est-ce qu'effectivement je vais pouvoir aller la chercher. Hein, tu le dis extrêmement bien dans le livre, et c'est vrai, aujourd'hui il y a deux plateformes qui dominent le marché sur le marketing d'influence. Un, évidemment, Instagram, suivi de près effectivement par TikTok, mais en fonction effectivement de votre produit, en fonction de votre offre, en fonction de vos objectifs, il se peut effectivement que votre campagne, vous alliez la lancer sur Snapchat, sur Twitch ou autre, en fonction effectivement de ce que vous avez vu à l'étape analytique, et puis évidemment, bah, ensuite d'aller choisir les bons formats qui vont bah, répondre à votre objectif que vous avez défini au préalable.
Donc, il y a plusieurs critères à cocher. Hein. Donc, déjà, une campagne égale un objectif, hein, pas une campagne, c'est, oui, de ratisser trop large. Ensuite, la bonne plateforme et en fonction du budget, le bon influenceur aussi qui rentre dans cette enveloppe-là. On va y venir un petit peu plus tard aussi. Est-ce que tu, une fois qu'on a aligné hein, toutes ces planètes-là, ça donne quoi? Tu pourrais nous partager, par exemple, un exemple de campagne d'influence réussie et pourquoi elle a fonctionné, cette campagne?
Alors, moi, j'ai envie de vous parler, je sais pas si c'est une campagne qui est très récente, donc aujourd'hui, il y a pas de, j'ai pas de données chiffrées à vous partager, mais je trouve qu'elle est intéressante et plutôt pertinente. En fait, je sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, mais BMW, justement, a lancé une soirée sur le lancement de la nouvelle BMW X3. Et en fait, c'est un événement qui est assez atypique, en tout cas dans le domaine de l'automobile. Donc, ils ont complètement repris, j'allais dire, les codes des maisons de luxe en organisant un défilé de voitures, pour le coup, pas de mode cette fois-ci, pour lancer effectivement le lancement de ce véhicule qui devrait sortir, a priori, de ce que j'ai compris, en mars de l'année prochaine. Et en fait, en termes d'influence, là, pour le coup, on avait, bah, j'allais dire, les plus gros influenceurs qu'on connaît aujourd'hui, Inoxtag, Lena Situation, Seb Lafrite, etc. Et donc, c'est un événement qui a été réalisé en toute élégance, évidemment que les influenceurs ont relayé aussi de leur côté. On avait la présence aussi de Sofiane Pamart, donc vraiment un événement extrêmement beau aussi d'un point de vue esthétique. Et on a voilà Ayam Damétienne, qui est influenceur plus dans le domaine automobile, qui a dit que c'était l'événement auto le plus stylé. Donc je pense que ce type d'événement peut avoir des retombées effectivement positives pour la marque. Et en plus, je trouve que c'était assez fait quand je dis en toute élégance, aussi en toute discrétion. Et je pense que ça peut avoir voilà, des retombées positives pour la marque à terme.
Ok. Alors, si on décide de se lancer, comment on fait pour choisir le bon influenceur? Parce que ce n'est pas évident. Tu nous as cité beaucoup de créateurs, beaucoup de profils avec des univers pas toujours similaires. Comment on fait pour choisir la bonne personne pour bien matcher avec sa marque? On se rappelle le bad buzz de Lacoste avec, c'était moi à la squale. Puis il y avait Elvis Romeo, je crois. Il y avait deux rappeurs qui avaient dérapé pour le coup et qui avaient vraiment fait une campagne d'influence bah, au niveau de Lacoste qui avait généré beaucoup de commentaires négatifs, etc. Parce qu'une belle marque, lifestyle, etc. avait affiché finalement sa marque à côté de profils bah, qui finalement n'étaient pas des personnes trop trop respectables vu qu'ils ont eu des problèmes judiciaires. Alors comment on fait pour pas se planter carrément avec moi?
Voilà, ouais, ça c'est effectivement extrêmement complexe, mais moi je dis toujours en fait qu'il faut aller choisir un influenceur qui soit déjà consomme votre marque, soit aime déjà votre marque ou potentiellement s'il la connaît pas aurait envie de la consommer. Parce que en fait, là on va être, je parlais du match parfait tout à l'heure, on va être vraiment sur des personnes qui vraiment ont les mêmes valeurs que vous, aiment le produit, aiment la marque. Et donc, en fait, quand ils vont en parler, bah, ils vont en parler de façon extrêmement naturelle. Donc ça, pour moi, c'est hyper important d'avoir vraiment cette connivence entre voilà, la marque et l'influenceur. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, il faut faire attention, vérifier effectivement que la personne que vous avez choisie, hein, par rapport aux exemples que tu as donnés, que c'est des personnes qui n'ont pas, j'allais dire, des comportements controversés, des comportements préjudiciables, en tout cas par le passé, pour pas nuire effectivement à votre réputation de marque. Aujourd'hui, on a aussi la chance quand même d'avoir des acteurs, je le disais tout à l'heure, qui nous aident aussi à choisir des influenceurs responsables. Aujourd'hui, vous avez la possibilité sur le site de Lumic, par exemple, de choisir des influenceurs qui sont dans cette démarche, je vais dire, éthique. Et vous avez aussi la possibilité d'aller chercher, par exemple, sur le site de la RPP, des influenceurs qui ont passé le certificat de l'influence commerciale responsable. Donc ça, déjà, c'est des éléments qui vont, j'allais dire, nous rassurer sur le profil aussi de l'influenceur qu'on suit et avec lequel on va travailler. Et puis, moi, je dis toujours, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, il y a quand même deux types d'influenceurs. Un, les premiers, c'est des influenceurs qui font leur métier avec cœur, avec envie, qui défendent effectivement de vraies valeurs, qui testent les produits avant d'en parler à leur communauté, hein, et donc voilà, qui sont dans une démarche sincère. Et deux, des influenceurs qui sont là, désolé pour le terme, mais pour faire du cash money, pour faire de l'argent, qui vont prendre les contrats, effectivement, peu importe le produit, etc. Et ça, il faut le dire, parce que c'est hyper important d'aller vraiment s'orienter vers, j'allais dire, la première catégorie d'influenceurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des marques qui, aujourd'hui, ne travaillent que avec des influenceurs qui sont certifiés, par exemple, par la RPP, parce que on voit effectivement que c'est des influenceurs qui ont fait cette démarche de se former à une influence responsable, à une influence plus éthique. Et donc, ça, c'est quand même important aujourd'hui. Et puis, je pense que le dernier point, c'est quand même aussi de vérifier les chiffres, hein, parce que le nombre d'abonnés aujourd'hui, pour moi, c'est pas une donnée qui est suffisante. Il faut effectivement savoir quel est le taux d'engagement de notre influenceur, parce qu'effectivement, on a des personnes qui ont des communautés extrêmement larges, mais si on a un taux d'engagement qui est très mauvais, bah, du coup, on va avoir des performances qui ne seront pas à la hauteur espérée. Et puis, aussi, de ne pas hésiter à demander aussi des chiffres sur les performances des campagnes passées, des collaborations passées, pour avoir justement une vision un petit peu plus large de ce que peut produire aussi l'influenceur. Je pense que ça, c'est aussi important en termes de données, j'allais dire, à vérifier.
Alors effectivement, hein, le marketing d'influence a beaucoup évolué, hein, parce qu'avant c'était la jungle, hein, clairement, hein, c'était une époque pas si lointaine où le marketing d'influence était vraiment tout et surtout n'importe quoi. Donc du coup, le gouvernement s'est mis dessus, hein, il a réglementé tout ça avec la DGCCRF, donc gros impact, ça a remis un petit peu de cadre, le marché s'est assagi quand même. Et du coup, alors aujourd'hui, comment il a évolué ce secteur d'influence? Est-ce que finalement, il est toujours hyper concentré sur certains secteurs qui sont le lifestyle, le voyage, l'hôtel, enfin voilà, lifestyle avec de façon très très large, ou est-ce que le marketing d'influence aujourd'hui, il est aussi utile si on est dans un secteur qui est en dehors de cet univers-là, lifestyle?
En fait, le marketing d'influence aussi a beaucoup évolué. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, aux prémices, j'allais dire, de l'influence marketing, les marques lifestyle, les marques aussi, les très grosses marques dans ces univers-là, avaient l'ascendant, j'allais dire, sur le marketing d'influence. Et donc, on voyait surtout des campagnes d'influence dans ces univers-là. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On a aujourd'hui des influenceurs qui sont spécialisés, par exemple, dans le domaine du BTP, dans le domaine du bâtiment, ce qu'on n'aurait peut-être pas imaginé il y a quelques années en arrière. Donc, si on voit Atelier Palame, par exemple, 321 000 abonnés sur Instagram, par exemple, et ils fabriquent du mobilier, voilà, sur mesure. Hichem Kezam, qui est plus connu sur Rénov.fr, qui est entrepreneur dans le BTP, pareil, il a plus de 250 000 abonnés sur Instagram. Et donc, c'est des personnes, effectivement, qui vont avoir aussi une part de voix dans ces univers-là où, potentiellement, on pensait que, si moi, je travaille dans l'univers du bâtiment ou dans l'univers de la plomberie ou dans l'univers de l'électricité, entre guillemets, j'ai rien à faire sur le marketing d'influence. Et ça, honnêtement, ça a beaucoup changé et c'est plus forcément ce qu'on imaginait il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, on a des influenceurs qui sont spécialisés dans des domaines d'activité. J'allais dire qu'on peut quasiment, dans tous les univers, évidemment, sauf des univers très particuliers ou très réglementés, où là, effectivement, on ne va pas pouvoir utiliser le marketing d'influence, mais aujourd'hui, on peut vraiment en faire sur des domaines d'activité qui sont extrêmement variés parce qu'on a des influenceurs de niche qui sont spécialisés dans des univers qu'on n'aurait pas encore imaginé il y a quelques années en arrière. Voilà, on a des clean influenceurs. Les clean influenceurs vous expliquent comment nettoyer effectivement votre maison de fond en comble. Donc effectivement, si on est une marque comme, je devrais pas citer de marque, mais peu importe, Monsieur Propre, aujourd'hui, Monsieur Propre est capable de faire du marketing d'influence parce qu'il va aller chercher des influenceurs qui sont spécialisés et donc des communautés qui sont intéressées par ces sujets-là.
Alors ça, c'est top parce que si on est une marque et qu'on n'est pas dans l'univers lifestyle, eh ben on peut aussi aller travailler en marketing d'influence, même si on fait de la rénovation de parquet.
Exactement, oui, complètement.
Et si on a une petite structure, un petit entrepreneur, une petite PME, est-ce que c'est un levier qu'on peut actionner ou c'est réservé à l'élite, à un gros portefeuille, aux grosses équipes communication, budget à 6 chiffres?
Non, c'est un peu pareil finalement, le marketing d'influence se démocratise beaucoup. Aujourd'hui, effectivement, on peut faire appel à des nano-influenceurs qui peuvent effectivement être un biais quand on n'a pas forcément des budgets à six chiffres, comme tu disais tout à l'heure. On a aujourd'hui des nano-influenceurs qui vont générer un taux d'engagement moyen de quasiment 5,6% donc sur Instagram. Donc, c'est 4 fois plus important que ce que pourrait faire un macro-influenceur. Donc, en plus, on a tout intérêt à le faire. On peut aussi, travailler avec pas forcément justement un seul nano-influenceur, mais plusieurs pour aller chercher effectivement un peu plus d'impression, d'engagement, etc. Mais aujourd'hui, le marketing d'influence, je pense que c'est le message aussi à faire passer, n'est plus réservé à une certaine élite, n'est plus réservé qu'au secteur du lifestyle ou des grosses structures.
Voilà, donc si vous êtes une grande entreprise, oui, vous pouvez effectivement travailler avec la situation, mais si vous n'avez pas ce budget-là, vous pouvez aussi travailler avec des nanos, des micro-influenceurs qui vont faire un très bon travail. Et surtout, retenez bien ça, c'est que le taux d'engagement sera souvent beaucoup plus fort sur des petits comptes, tout simplement pour des logiques d'algorithme. Hein. L'algorithme est beaucoup plus permissif avec des comptes 1 000, 10 000 et encore jusqu'à 100 000 abonnés. Au-delà, on bascule sur des comptes très, très professionnels et là, l'algorithme, il a une approche un peu différente. Ouais. Comment il va évoluer ce métier d'influenceur? Là, on arrive bientôt en 2026, mais comment tu le vois dans les prochaines années? Parce que là, déjà, en 2-3 ans, depuis notamment les changements de réglementation, ça a beaucoup bougé. Comment tu le vois, toi, évoluer dans peut-être 10 ans, c'est peut-être un peu très, très long terme, au moins dans les 2 à 5 ans?
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'en fait, le créateur de contenu, qui encore une fois était, entre guillemets, là pour promouvoir les produits ou services des autres, aujourd'hui, le créateur, il a, ce qu'on disait tout à l'heure, parfois plus d'abonnés qu'un média, donc il a une part de voix, il peut faire passer aussi des messages, mais surtout, j'allais dire, il peut aussi créer, l'entreprise de ses rêves. C'est aussi ça, en fait, qui est, je trouve, beau aussi dans cet exercice. Ça devient des entrepreneurs à part entière. Je sais pas, Isabeau Delatour, qui a fondé sa marque de bijoux Boboche, en fait, ça faisait partie justement de ses rêves de pouvoir créer en fait sa propre marque de bijoux. Elle a la possibilité de le faire avec une communauté qui la suit. Enfin, dès lors qu'elle sort une collection, c'est sold out en quelques temps. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est que, en tout cas, si on arrive effectivement à gérer, j'allais dire, sa carrière, c'est vraiment ça. C'est que l'influence devient un tremplin. Parce que finalement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement, et puis, mais c'est aussi beaucoup de parts de risque parce qu'ils se mettent, pas forcément en danger, mais en tout cas, ils prennent la parole, ils vont effectivement assumer parfois des prises de position, etc. Donc, il y a quand même une part de risque. Et donc, ils deviennent effectivement acteurs, de leur propre vie, en créant effectivement de vrais business, en créant effectivement, en devenant acteurs aussi, parfois, en suivant effectivement la voie, artistique. Si on prend l'exemple de Just Riyad, qui a joué effectivement, je crois que c'était en 2023, dans le film À la belle étoile, qui racontait justement l'histoire du pâtissier français Yazid Sherman. En fait, c'est vraiment ça, en fait, pour moi, la suite de l'influence. C'est de se dire, OK, à un moment donné, je faisais la promotion de telle ou telle marque. Aujourd'hui, j'ai un certain niveau de notoriété et j'ai une vraie part de voix avec ma communauté. Je vais pouvoir finalement l'exploiter. Le terme n'est pas bon, mais finalement, c'est un peu ça, pour pouvoir réaliser de nouvelles choses. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça, de se dire que voilà, du profil créateur, on devient entrepreneur, on devient acteur. En tout cas, on est des vrais acteurs, ça devient des vrais acteurs économiques dans l'environnement actuel.
C'est encore un bon plan pour toi de se lancer comme créateur de contenu aujourd'hui. Le marché, il est vraiment très large. Il y a des personnes qui sont très bien installées, même parfois sur certaines niches. Est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce que c'est encore un bon plan de se lancer aujourd'hui pour toi?
Alors, c'est une vraie bonne question. Je pense qu'effectivement, si on a quelque chose à raconter ou une nouvelle façon de le faire, j'allais dire, il y a toujours... toujours de la place. Et puis tout le monde, il faut être très honnête, hein, aujourd'hui, je crois qu'il y a quasiment 300 000 influenceurs en France, avec 150 000 qui sont un peu plus connus. Mais dans ces 300 000, on a aussi beaucoup de nano-influenceurs. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas voué à devenir l'ENA Situation. Mais on peut être un nano-influenceur avec peut-être moins d'abonnés, mais si on a quelque chose d'intéressant à dire, si on a une niche d'activité, si on est passionné, en fait, je pense que c'est vraiment ça, passionné par un sujet, il y a évidemment toujours de la place, même si il y a des environnements qui sont extrêmement concurrentiels, hein, ce que tu disais tout à l'heure, l'univers de la beauté, l'univers de la mode, donc faut réussir à avoir une façon d'aborder les sujets qui va être un peu différente pour pas faire, du copier-coller avec tout ce qui existe déjà sur le marché. Mais en fait, oui, tout est ouvert, et il faut juste se lancer.
Faut essayer, et puis voilà, ça peut. Ça...
Essayer.
Ouais. Si on a un univers, une personnalité, une approche.
Exactement.
Ouais. Il n'y a pas de formule magique, hein, de toute façon. Qui aurait pu dire que l'ENA Situation allait percer? Qui aurait pu dire?
Non, ouais, en fait, c'est vraiment ça. C'est à un moment donné, c'est un peu la magie. Des fois, ça prend, des fois, ça ne prend pas. Et là, effectivement, elle a réussi à capter vraiment toute une génération. Et aujourd'hui, c'est une icône, au même titre qu'il y a quelques années en arrière. Nous, peut-être, notre génération, Fabrice, on regardait des séries télé. Aujourd'hui, effectivement, les icônes des jeunes, ce sont les influenceurs d'aujourd'hui.
Et l'impact d'IA, Karina, sur l'influence, qu'est-ce que ça va donner? Parce que ça peut bouger vite. Hein. Aujourd'hui, on parle de la situation. Il y avait une étoile filante il y a quelques années, c'était Enjoy Phoenix. Hein. Puis, elle a disparu, Enjoy Phoenix. Et oui, elle a gagné aussi en maturité. Le public n'a peut-être pas suivi non plus cette évolution-là. Mais là, alors, il y a le phénomène de l'âge, mais il y a aussi le phénomène des technologies. L'IA qui arrive, qui a tout chamboulé, ChatGPT, ça a retourné la table. Est-ce que ça va avoir un impact pour toi aussi sur le métier d'influence? Est-ce qu'on va... Ça existait déjà, ces faux influenceurs virtuels. Est-ce que l'IA va changer tout ça? Est-ce qu'on risque de voir arriver des influenceurs qui n'en sont pas, ou des influenceurs bien installés, comme Léna ou Thibaut ou Squeezie, qui vont utiliser ces technos-là? Qu'est-ce que tu penses?
En fait, il y a beaucoup de choses effectivement autour de l'IA. Évidemment que ça fait déjà évoluer le métier et ça va le faire évoluer. Ça peut être aussi un gain de temps pour les influenceurs parce qu'en fait, il faut quand même l'avouer, aujourd'hui, ils sont dans cette course toujours à la créativité, de trouver la meilleure idée, de trouver une idée différente, etc. Le fait, effectivement, pour en avoir discuté avec certains influenceurs, ça leur permet, par exemple, tu vois, d'être en interaction en fait avec ChatGPT, par exemple, pour trouver la bonne idée, pour brainstormer, etc. Donc ça peut être aussi un espèce de gain de temps, en tout cas d'entraide. Pour rédiger aussi les posts, ça peut être aussi une entraide. Et puis, j'allais dire, côté marque, peut-être que demain aussi, ça va être plus facile d'aller chercher aussi les bons influenceurs, parce qu'aujourd'hui, évidemment, qu'il y a des plateformes qui existent, type Reach, type Callsquare, etc. Encore une fois, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une licence à un certain prix tous les ans, donc peut-être que demain ça va aussi nous permettre de se dire ok, moi j'ai telle campagne, j'ai envie d'aller chercher tel influenceur avec tel critère, essaye de me sortir effectivement une liste d'influenceurs. Aujourd'hui, honnêtement, c'est assez moyen pour avoir testé, voir ce que ça donnait, mais peut-être que demain ça va aussi aider les marques par rapport à ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions. Aujourd'hui, il y a déjà effectivement des influenceurs virtuels qui existent sur le marché, et L'avantage, évidemment, de l'influenceur virtuel, c'est qu'il n'a pas de contraintes d'agenda comme on peut l'avoir avec un humain. Ce qu'on se disait aussi, c'est que c'est une personne, voilà, qui va garder sa physionomie. C'est une personne, c'est un influenceur digital. On va pouvoir aussi lui faire dire des messages sans avoir peur, effectivement, des répercussions, parce que on a des messages maîtrisés. Donc c'est vrai que l'influenceur digital, virtuel, a certains, effectivement, avantages. On ne va pas le nier. Après, moi, ma vision, je crois en l'humain. Donc, je pense que de toute façon, même dans les années à venir, l'humain va perdurer, parce que c'est quand même important, et je pense qu'il faut quand même continuer d'y croire. Parce que, voilà, l'humain, avec toutes ses spécificités, je pense qu'on n'arrivera pas à trouver ça dans la machine. Et j'allais dire, tant mieux.
Ce serait presque le thème d'un autre podcast. Hein. Est-ce qu'on a encore besoin d'humains? Donc, rassure-nous. Bon, tout va bien. Réclamé nous a dit oui, elle pense. Justement, par rapport à ça, ça ouvre une nouvelle porte là, qu'on va peut-être entre-ouvrir un instant, même si on ne va pas faire 4 heures dessus, mais les dangers des écrans et d'ultra-connexion. Alors avec l'IA, on va utiliser de plus en plus ces technologies-là. Et puis des influenceurs aussi, avec le principe des algorithmes, nous emmènent toujours plus à consommer du contenu sur nos écrans. Aujourd'hui, on le voit, hein, tu es assise, tu attends le tram 2 minutes... Tu regardes pas le monde qui déroule devant toi pour, je sais pas, te créer des histoires. Non, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On dégaine TikTok, Instagram, et les 2 minutes de temps disponible qu'on a, on va les broyer dans la machine, entre guillemets. Ouais, la vision, toi, de ça?
Tout le monde est collé, effectivement, sur son écran. Il y a juste à regarder, voilà, vous prenez le métro, vous regardez les gens, l'espace de 2 minutes. Effectivement, tout le monde est aujourd'hui collé sur son écran. Je trouve qu'en fait, sur les réseaux sociaux, il peut y avoir de très belles opportunités. On peut apprendre plein de choses. Charles Gastaud, justement, me disait que, de par, effectivement, ses prises de parole sur les réseaux sociaux, il a eu une opportunité. Pendant un moment, il était consultant sur BFM Business. Donc, en fait, il y a, voilà, le côté positif, évidemment, existe, mais il y a quand même des effets négatifs qui sont extrêmement important, et ça importe, enfin, il faut le dire. Il y a une commission d'enquête là qui est sortie là en septembre 2025, portée par le député Arnaud Delaporte, sur les effets psychologiques justement de TikTok. Et je pense que, enfin, aujourd'hui, TikTok reste, malgré tous les aspects positifs, il y a quand même un danger pour la santé mentale des jeunes, que ce soit la jeune génération aujourd'hui ou les générations futures. En fait, ils ont un algorithme qui est tellement puissant que ça crée, en fait, c'est le rapport qui dit, de l'addiction. Et quand on parle d'addiction, souvent on pense aux drogues, etc. Là, en fait, c'est le fait de passer du temps, effectivement, sur les écrans. Moi, j'ai des jeunes qui me disent parfois passer 7 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc, quand on passe 7 heures par jour sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait d'autre? C'est-à-dire que, déjà, on s'isole. C'est-à-dire qu'on passe pas du temps avec, sa famille, ses amis, même si on croit passer du temps avec ses amis en étant derrière un écran. Ça veut dire, effectivement, qu'on fait pas de sport. Ça veut dire que, potentiellement, peut-être qu'on s'alimente moins bien, etc. Enfin, il y a des effets sur la santé mentale, potentiellement aussi sur la santé sur la santé physique, et donc je pense qu'il faut à un moment donné quand même sonner la sonnette d'alarme, ce que fait évidemment ce rapport. J'ai vu la dernière fois une prise de parole justement du chef de l'État qui disait que en fait TikTok était présent effectivement en Europe, aux États-Unis, etc., que ça broyait littéralement, sans le dire peut-être comme ça, le cerveau effectivement de nos jeunes, et que effectivement en Chine, ils n'ont pas cette plateforme. Donc, à un moment donné, il faut se poser aussi les bonnes questions. Dans ce fameux rapport, il y a plusieurs propositions qui ont été faites, hein, comme l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, par exemple, avoir un couvre-feu numérique de 22h à 8h, enfin bref, l'interdiction des téléphones au lycée, etc. Bref, des mesures qui, pour moi, à un moment donné, vont être essentielles si on ne veut pas, voilà, avoir une génération derrière où déjà, on a l'IA qui est prédominant, hein, pour aussi intervenir dans certains établissements scolaires, où ça veut dire que finalement, on a parfois du mal à réfléchir, à avoir un esprit critique, etc. Et puis de deux, on passe, voilà, beaucoup, beaucoup de temps sur les réseaux. Donc je pense et j'espère qu'il y aura des mesures pour améliorer effectivement cette situation, parce que ça peut être vraiment néfaste pour nos jeunes, et sans compter effectivement tous les contenus, j'allais dire, un peu haineux qu'on peut trouver aussi sur la plateforme, voire pire que ça, des contenus qui sont pas effectivement qu'on n'aimerait pas voir dans les mains de notre enfant.
Oui, parce que ces plateformes-là, ces canaux-là, ils sont incroyables, ils sont formidables. Et nous, on sait la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir accès à ces technologies-là. Avec Karina, on fait, voilà, on n'a pas 20 ans. Donc, on a connu le monde d'avant, on va dire, on a connu le 20e siècle. Il n'y avait pas Internet encore, il n'y avait pas les smartphones. Alors, c'était différent, mais aujourd'hui, on est conscient du risque autour de ces technologies, mais on est aussi conscient de la chance qu'on a de les avoir aujourd'hui pour avoir un accès à l'information, à la communication. Enfin, autrefois, si on avait voulu, échanger avec Karina et vous partager notre échange, ben il aurait fallu qu'on aille sur le plateau d'une radio et ça aurait été très compliqué. Toi, tu as fait BFM TV par exemple, tu aurais eu accès à des médias, voilà, mais c'était très compliqué de toucher le public. Aujourd'hui, on peut avoir sa propre chaîne de télé avec YouTube, on peut avoir sa propre émission de radio avec un podcast. Enfin, on a quand même des médias qui sont ultra puissants et qui permettent notamment à des jeunes gens comme Elena Situation pour la renommée encore, ou Thibaut Inchef, Squeezie, etc., bah de toucher aujourd'hui une communauté encore même plus large que certains grands médias. Alors les marques justement peuvent en profiter. Et ce serait l'une de mes dernières questions, ce serait quoi justement ton conseil numéro un, Karina, bah, pour quelqu'un qui veut exploiter le marketing d'influence pour son entreprise aujourd'hui en 2026? Une grande structure ou pas, mais quelqu'un qui se dirait, bah tiens, je n'ai pas encore fait, j'avais peut-être un a priori négatif ou j'avais certains clichés dessus, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça vaut le
coup. Moi, je dirais, première étape, c'est un, préparer le terrain avec tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Deux, c'est vraiment de tester. Parce qu'effectivement, quand on n'a jamais fait, on a souvent des a priori. Et j'allais dire, comme toute campagne digitale, quand on mène une campagne digitale, en général, on fait de l'A-B testing, on teste des choses, on teste des formats, on teste effectivement des messages, etc. Et je dirais finalement de faire la même chose, de tester en fait différentes approches pour voir en fait les approches qui vont être les plus satisfaisantes, là où on va avoir les meilleurs résultats, pour ensuite, j'allais dire, se lancer à, on va dire, plus grande échelle. Et puis, d'un point de vue budgétaire, c'est aussi quand même plus intéressant de travailler de cette façon-là, parce qu'on ne va pas cramer tout son budget en one shot. On va vraiment travailler étape par étape pour ensuite déployer à plus grande échelle une fois, j'allais dire, qu'on a les bonnes convictions et surtout qu'on les a vérifiées au travers des données chiffrées.
Excellent. Karina, pour conclure, si tu devais définir le marketing d'influence, si je te disais une phrase par exemple comme « le marketing d'influence est avant tout » et tu finis la phrase, tu dirais quoi ? « Le marketing d'influence est avant tout » ?
Alors, sans grande surprise par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est avant tout l'histoire en fait d'une rencontre humaine, voilà, entre une marque et un influenceur, parfois une marque, un influenceur et une agence. Ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est aussi ça, hein, c'est la connexion, la relation humaine. J'allais dire, c'est un peu comme une histoire d'amour. Pour que la magie prenne, bah, finalement, il faut qu'il y ait des valeurs communes, des atomes crochus, une alchimie, en fait. J'ai pas peur des mots, mais je pense que c'est vraiment ça qui est important, parce que en fait, comme dans la vraie vie, si tout est inventé, tout est entre guillemets factice, eh ben on va pas y croire. Alors que si effectivement on est dans cette alchimie naturelle, bah évidemment que les messages vont mieux passer et pour tout le monde.
Très bien, Karina. Puis il y a cette part de cette alchimie qu'on maîtrise pas toujours et parfois ça.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup, Karina, pour cet échange. Merci.
Merci à toi.
Karina, où est-ce qu'on peut te retrouver quand tu n'es pas dans un podcast, quand tu n'es pas en train d'écrire un livre, quand tu n'es pas sur les plateaux de télévision? Où est-ce qu'on te retrouve?
Alors, le plus simple, c'est effectivement sur LinkedIn. Vous pouvez effectivement me suivre, m'écrire sur LinkedIn. En général, je réponds toujours, donc avec plaisir.
Je vais mettre le lien vers le profil LinkedIn de Karina tout en bas du podcast de l'émission. Vous l'avez tout en bas avec un lien aussi donc vers son ouvrage « Le marketing d'influence » aux éditions Viber. Identifier les bons influenceurs, cadrer la collaboration et choisir les bons types de campagnes. Vous avez compris que c'est un manuel d'influence finalement pratico-pratique. Si vous avez des questions sur l'influence, si vous vous posez encore des questions globales ou des questions très opérationnelles, comment on fait concrètement, je veux y aller, et ben voilà, c'est l'ouvrage qui manquait, le marketing d'influence de Karina aux éditions Viber. Karina, au plaisir d'échanger avec toi.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci à toi pour cet échange et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous.